Donc, il va y avoir deux parties à cette intervention. La première partie, je vais vous présenter ce que c'est que l'attention, parce qu'en fait, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Puis la deuxième partie, on parlera, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que c'est possible d'aider les enfants qui ont des troubles de l'attention? Voilà. Donc, vous attendez surtout la deuxième partie, mais il va falloir que vous patientez. Et puis, à la fin, je vous donnerai des références de bouquins que j'ai amenés, que vous pourrez regarder si vous voulez. Voilà, voilà, voilà. Donc, première partie, l'attention. Faire attention. Attention, ça c'est un panneau. Quand on voit ça, on fait attention. Alors, en fait, en classe, pour commencer, en classe, il y a deux situations vraiment extrêmes, vraiment opposées. La première, c'est les enfants qui n'ont pas de problème d'attention. Alors, on ne leur demande rien, évidemment. Et puis, la deuxième, c'est ceux qui ont un problème d'attention à qui on demande de faire attention. Ça s'appelle une injonction paradoxale, ça. C'est-à-dire que on leur demande de faire attention, alors qu'a priori, on va peut-être creuser un petit peu, ça serait le problème. Alors, est-ce que c'est un truc nouveau? Alors ça, j'ai photographié ça pour vous à Bologne, l'année dernière, bas-relief de 1450 et quelques. Donc, il y a un maître, et puis il y en a un là, manifestement, il n'a pas l'air très très convaincu. Je ne sais pas, peut-être que sa copine à côté l'attire, je ne sais pas ce qui se passe, mais vous voyez que dès 1450, il y avait des enfants, enfin pas des enfants là, des jeunes, hein, des jeunes étudiants, qui avaient des problèmes d'attention. Donc c'est certainement pas un problème nouveau, on a déjà répondu à une question. L'attention chez l'enfant scolarisé, eh ben, c'est une problématique scolaire fréquemment mise en avant aujourd'hui, on en parle à tous les temps et à tous les modes, et puis c'est source de débats autant passionnés qu'absolument pas passionnant. En tout cas, j'essaierai de vous rassurer par rapport à ça. Les débats actuels sur tout un tas de choses ne font pas beaucoup avancer la cause des enfants et la situation des enfants en classe. Alors, est-ce qu'il y aurait une définition de l'attention? Eh bien, ce n'est pas si simple. Parce que c'est très compliqué, finalement, de définir quelque chose qui est évident pour tout le monde. Parce que vous, tous autant que vous êtes, vous avez une idée comme ça, implicite, de ce que c'est que faire attention. Alors, je me suis amusé à aller dans mon dictionnaire de synonymes habituels sur Internet, et vous voyez que les synonymes d'attention, je ne les ai pas tous lus d'ailleurs, il y a caresse, c'est mignon, c'est avoir de l'attention pour sa chérie. J'ai beaucoup aimé 22, je pense que 22, c'est 22 flaliflics, faut faire attention, voilà. Donc vous voyez que ça va loin déjà, l'attention. Alors, je me suis dit qu'on allait faire quelques petits tests d'abord pour commencer. Le premier, on avait utilisé le même avec Jacques Bouchamp, que je salue. Il y a 2 ans, on avait fait un truc sur le calcul. Tu te souviens, on avait utilisé ça. Bon, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'ombre du 3 est devenue un 2. Ah ouais, il faut faire attention dans la vie. Alors, je vais emprunter les 3 premières diapos à Michel Habib. Michel Habib nous avait présenté ses diapos en 2008 à Rennes. Et donc, vous allez voir des mots qui vont apparaître 300 millisecondes, 3 dixièmes de seconde. On va voir si, en faisant attention, vous êtes capable de les lire. Vous avez lu quoi? Bien. C'était dur, hein, ça. C'était ça. C'est exactement le mot, enfin, c'est les mêmes lettres qu'il y a dans le mot confortablement, mais ça n'a rien à voir avec un quelconque mot de la langue française. Et donc, que si je vous mets confortablement, vous êtes des adultes, vous savez lire, vous pouvez le lire en 3 dixièmes de seconde, mais ça, c'est pas possible. Maintenant, vous allez voir des images qui vont apparaître 100 millisecondes, un dixième de seconde. Vers la fin, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais comme c'est des images que vous connaissez bien, que sémantiquement, ça va vous rappeler des choses que vous connaissez bien, donc vous allez trouver le mot. Vous allez voir que ça va marcher, même en 100 millisecondes, vous allez reconnaître. Allez-y, vous pouvez participer. Un ballon, c'est bien. Une poule. Un voilier, un bateau. Voilà, il y a déjà du polysémique. Hein. Un singe. Meuh. Un viaduc aussi. Voilà, très bien. Il y a des viaducs. Les garçons, souvent, ils disent une Ferrari. Un chat, bien. C'est le chat. Ah, c'est moins courant comme image. Trop sauté. Très bien. De toute façon, dès que vous y mettez à plusieurs, ça marche toujours. Bon, une petite dernière pour la route. Alors, j'ai photographié cette image qui va apparaître sur la façade d'une maison en Bretagne, chez une maman qui est déléguée de deux parents. Et d'ailleurs, elle a une petite fille qui est, c'est la petite fille la plus géniale du monde. Elle s'appelle Rosalie. Rosalie, quand elle était bébé, puis petit enfant, elle a été élevée avec un chien qui s'était fait casser une patte quand elle était bébé et qui avait été amputé. La première fois qu'elle allait chez des gens qui avaient un chien, quand elle a su parler, elle a dit « Comment ça se fait que votre chien, il a quatre pattes ?» Ça, c'est très intelligent. Alors, regardez bien. Qu'est-ce que vous lisez là? Allez, fort! Email. Mais non, il n'y a que les vieux qui lisent email. Je suis désolé. Ici, on lit email, mais il y a 20 ans, il y a 15 ans, personne n'aurait lu email. Ce qui prouve à quel point nos apprentissages, on est vraiment dans le culturel en permanence. Hein, c'est bien les émailleries parisiennes, extra, c'est de l'émaillerie de qualité supérieure. Mais là, j'ai testé avec pas mal de gens, les gens lisent email. Voilà. D'ailleurs, l'émaillerie n'a pas d'email, elle a une adresse postale. Alors, le pape de la psychologie américaine, William James, dès 1890, ce n'est pas d'hier, s'est risqué à une définition de l'attention. Et l'attention est la prise en compte par l'esprit, sous une forme claire et précise, d'un seul objet ou d'une seule suite d'idées parmi plusieurs possibilités. Et cette faculté nécessite que l'on renonce à certaines choses pour s'occuper efficacement des autres. À part les termes qu'on emploie aujourd'hui, cette définition, elle n'a pas pris beaucoup de rides, vous allez voir. Et ce qu'il faut pour commencer, et ça c'est valable pour toutes les pathologies spécifiques, ces fameuses 10, c'est que pour vous mettre dans la peau des enfants qui ont des difficultés spécifiques, les 10, il faut que vous oubliez votre situation d'adulte. Même si ça fait mal au cœur, même si c'est dur à vivre, on vit une quotidienneté épouvantable, on est dans des routines et dans des automatismes incroyables, nous les adultes. 99% de notre journée, on est en pilotage automatique, comme quand vous prenez votre voiture le matin pour aller sur votre lieu de travail. Vous n'êtes pas réveillé et vous arrivez en général entier parce que vous êtes en pilotage automatique. Les enfants, ils sont confrontés, surtout à l'école, à la nouveauté et ils doivent faire beaucoup, beaucoup d'efforts qui sont souvent sous-évalués. Alors, le fonctionnement cérébral de l'apprenant, n'est-ce pas, l'enfant qui est scolarisé et qui est soumis aux apprentissages à l'école, c'est la nouveauté, c'est les apprentissages, et ces apprentissages, ils sont successifs, ils sont accumulatifs, ils sont parfois évolutifs parce que finalement, il faut oublier un apprentissage antérieur qu'on avait bien automatisé pour passer à quelque chose de nouveau, qui est plus efficace, plus rapide. Donc, il faut faire attention. On nous soumet à l'école un certain nombre d'items, comme on dit. Il y a des choses à regarder, à entendre. Il faut faire une sélection, il faut faire un choix. Dans un énoncé problème, par exemple, souvent des petits profs de maths qui mettent des nombres qui ne sont pas à retenir. Il y a 14 garçons, 16 filles dans la classe, la maîtresse a 33 ans. Combien il y a d'élèves en tout, par exemple? Il va falloir donc hiérarchiser et pondérer ces informations. L'âge de la maîtresse, ce n'est pas très important. Il va falloir inhiber, par exemple, quand on a appris la résolution de l'addition et qu'on passe à la multiplication, il faut arrêter de faire comme on faisait avant avec l'addition. Il faut de la flexibilité mentale, c'est-à-dire justement quand on passe d'une tâche à une autre, il faut pouvoir jongler. Il faut mettre en œuvre des stratégies. Quand on a un exercice de maths, un exercice de physique après, eh ben on démarre, on tient compte de tel item, et puis on avance. Donc on a des plans comme ça. Et puis, il va falloir travailler en temps réel. Ça, c'est quelque chose de très important. À l'école, on ne vous lâche pas d'une semelle. En temps réel, il faut travailler sur ces données. Ben, vous voyez que tous ces trucs-là, qu'on retrouve ici, ils rencontrent des fonctions mentales spécialisées. Donc, la fonction attentionnelle, dont on va parler ce soir, qui n'est pas isolable des deux autres. Celle-ci, qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sert à tout ça. À faire des choix, à sélectionner des données, à les hiérarchiser, à les pondérer, à changer de tâche, à changer de procédure, à mettre en place des plans. Et puis, la mémoire de travail, qui est cette mémoire en temps réel. La mémoire de travail, c'est un très mauvais terme que j'aime pas du tout.
c'est la traduction d'un terme anglais qui est working memory, qui est la mémoire en train de travailler. Vous avez remarqué l'accent du Poitou en anglais. Voilà. Alors, il y a une interaction entre ces trois grandes fonctions qui rendent compte de tout ce qu'il y a à faire à un niveau, on va dire, transversal, un niveau hiérarchiquement supérieur dans le cerveau, et qu'on appelle d'ailleurs les fonctions d'organisation et de gestion, qu'on appelle aussi, quand on mélange les trois, quand on prend en compte les trois, on appelle ça fonction exécutive, et on emploie ce terme à ce moment-là au sens large. Mais, moi j'utilise assez facilement un terme d'organisation et de gestion, c'est-à-dire que dans notre cerveau, bien sûr, il y a notre intelligence, qui est un peu la puissance de notre cerveau, on va dire la puissance de l'ordinateur, la puissance de la puce, et le logiciel de gestion et d'organisation, c'est un petit peu l'optimisation de l'efficacité cérébrale. Donc ça repose sur l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire de travail. Voilà. Et Jean-Philippe Lachaud, dont j'ai amené le livre Le cerveau attentif, dans un hors-série très récent, hein, novembre 2011, c'est hier, Sciences humaines, il dit comment nous focalisons-nous sur un détail, sur une action, sur un plan de conduite, sans nous laisser distraire par notre environnement en perpétuel changement, grâce à un chef d'orchestre, le lobe frontal. Le lobe frontal, c'est la partie bleue qui est à l'avant du cerveau. Donc récemment, ces fonctions qu'on a vues, l'attention, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, qui sont dans le lobe frontal, il y a des articles récents qui disent qu'en fait, c'est plutôt une déconnexion entre le lobe frontal et puis des zones plus reptiliennes dans le cerveau, un petit peu plus anciens, dans les ganglions de la base, c'est pas très important. Alors, comment ça se passe concrètement, prêter attention, faire attention? Eh bien, on est interpellé par quelque chose qui vient de l'extérieur. Là, par exemple, on entend un petit peu les bruits des convives. Tiens, qu'est-ce qui se passe? En sont-ils au dessert? Ou on peut être interpellé aussi par quelque chose qui vient de l'intérieur. Hein, par exemple, à midi moins le quart, on peut avoir des petits gargouillis dans le ventre qui disent « Tiens, tu as pris ton petit déjeuner il y a longtemps, ça serait peut-être bien que tu passes à table. Hein » Donc, ça nous interpelle, ça. On en prend conscience ou pas? Il y a tout un tas de phénomènes attentionnels qui ne nécessitent même pas que vous en preniez conscience. Je vais vous en citer deux. Vous êtes dans un cocktail party, vous êtes avec des gens que vous connaissez, et puis on prononce votre nom et votre prénom. Vous ne pouvez pas inhiber de ne pas écouter votre nom et votre prénom, parce que l'espèce humaine, vous savez bien qu'on a un nombril large comme la Méditerranée. Vous êtes en forêt, vous vous promenez, puis à un moment donné, hop, vous avez un moment de recul. Avant même d'avoir pu analyser le truc qui traîne par terre, vous avez eu peur, et après vous vous rendez compte, bah non, c'était pas un serpent, c'était un cep de vigne. Alors ça, c'est M. Marandas qui explique ça. Il explique que 10% de ce qui rentre dans nos yeux ne va pas dans les zones optiques, mais va dans les zones de l'émotion. Donc vous avez peur avant d'avoir reconnu ce que c'est. C'est tout à fait fondamental. M. Marandas, il explique par exemple que quand vous montrez à des gens qui ont une cécité corticale, leurs yeux marchent bien, mais leur cerveau ne décode pas. Le laboratoire Kodak ne fonctionne plus. Donc ils ne voient rien. Et vous leur dites, on va vous montrer des photos. D'abord, ils vous prennent pour un imbécile. Pourquoi vous me montrez des images alors que je ne vois plus? Et vous montrez aux gens, par exemple, une image d'une maison. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Et une image d'une maison qui brûle. Qu'est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Et vous dites à la personne, dans quelle maison vous préféreriez habiter? Une très, très, très grande majorité de gens montrent la maison qui ne brûle pas. C'est mieux d'habiter dans une maison qui n'est pas en train de brûler. Alors qu'ils ne l'ont pas reconnue. Parce que c'est traité par des zones qui sont non visuelles. Alors, il y a donc des traitements non conscients. Mais la plupart du temps, à l'école, on a le temps, il n'y a pas de serpent, on ne prononce pas votre nom et votre prénom tout le temps, et la maîtresse ou le maître, l'enseignant, le professeur des écoles, sollicite quand même les enfants, sollicite l'attention des enfants. Donc finalement, plus ou moins, ces braves enfants vont avoir un jugement. Ils vont dire, tiens, ce dont il me parle, ce qu'il attend de moi, il faut peut-être que j'y prête attention. Alors, d'abord, il faut qu'ils considèrent que c'est plus important que ce qui se passe dans la cour de récréation, par exemple. Et puis, il faut qu'il en ait plus ou moins une petite idée. Il y a un article assez ancien dans les années de Madame de Schoen qui est « Quelques considérations triviales sur l'attention » où elle explique que pour porter attention à quelque chose, comme l'a dit William James, on ne fait pas attention à quelque chose que l'on voit, on ne fait pas attention à quelque chose qu'on entend. On fait attention à quelque chose qui a une représentation dans notre esprit. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous écoutez une émission sur France Culture, une émission de France Culture, avec quelqu'un qui parle bien. Imaginez que ça soit Claude Agège, le linguiste. Dans ces émissions-là, où les gens s'expriment bien mieux que moi, vous avez l'impression qu'une heure après, vous allez être beaucoup plus intelligent qu'avant, parce que cette émission, elle est drôlement bien. Donc, vous écoutez et vous êtes très attentif. Manque de peau, la personne vous parle de quelque chose dont vous n'avez aucune idée. C'est vraiment un champ de connaissances qui ne vous parle pas du tout. Mais vous ne pouvez pas garder votre attention et écouter une heure jusqu'au bout. Pour prêter attention à quelque chose, il faut en connaître peu ou prou quelque chose. Donc à l'école, tout est nouveauté, il faut élaborer une réponse. Quand même, en général, les élèves, il y a bien une chose qu'ils savent, c'est qu'on va attendre de vous une réponse. Je me souviens, il y a 2 ans, on disait, dans ces problèmes, il y a des mots inducteurs d'opération. Les élèves, ils sont attendus au virage, donc ils vont mettre en jeu leur attention. Mais pour cela, on va dire en amont, au-delà même de porter attention, vous le savez, petite parenthèse qui ne durera pas longtemps, il faut de bonnes conditions et psychologiques et psychiatriques, on va dire, des enfants très anxieux, des enfants déprimés, des enfants qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, des enfants qui rentrent dans ce qu'on appelle actuellement le spectre de l'autisme, le trouble envahissant du développement, ne peuvent pas être disponibles et ne vont donc pas mettre en jeu convenablement ou pas du tout, ou de façon partielle, leur attention. Imaginons que ce n'est pas le cas, puisqu'on parle, en général avec moi, on parle des troubles spécifiques. L'enfant est donc alerté, va traiter des données, va travailler en temps réel, va élaborer des stratégies. Mais le problème, c'est qu'il risque d'être distrait. Que les classes d'aujourd'hui, ce n'est pas simple. Cet après-midi, dans une réunion d'école, la prof, parce que c'était pour un enfant de 5e, disait j'ai une demi-heure de gendarme à chaque cours et j'ai 20 minutes de cours. Pas facile. L'autre jour aussi, une dame dans une conférence comme ça disait de toute façon, c'est normal qu'ils soient distraits, les enfants, parce que moi, de mon temps, puis c'était le cas, moi je suis de Lavosso, c'est pas bien loin Lavosso, les écoles, dans le temps, les fenêtres, elles étaient à cette hauteur-là. Donc on voyait éventuellement la cime des arbres au printemps, éventuellement les nuages, il n'y avait pas trop d'avions à cette époque-là, donc on n'était pas très dérangés. Maintenant, vous savez qu'il faut que la lumière inonde les foyers, la lumière inonde les écoles, donc les vitres, elles descendent jusque-là, et les petits-enfants, ils n'ont aucun effort à faire pour être distraits. Voilà. Donc le problème de l'attention, c'est surtout de ne pas être distrait par le reste. Alors c'est quoi l'attention? C'est un préalable. C'est un préalable. C'est un préalable, disais-je. Hop. Très, très, très rapidement. Ce qu'on a à faire avec notre cerveau à longueur de journée, mais surtout les élèves en classe, c'est à accueillir des informations par une voie d'entrée qui vont rencontrer notre intelligence générale, notre capacité de les trier, de faire des catégories, de raisonner, d'entrer dans la logique, d'entrer dans l'abstraction et de donner une réponse à la maîtresse. Donc, on est en interaction avec l'environnement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que ça fonctionne bien, il faut un système de contrôle et de gestion. Et dans ce système de contrôle et de gestion, il y a l'attention et les fonctions exécutives qui sont en fait, on l'a dit, des fonctions de gestion de l'ensemble des différents modules cognitifs. Je n'ai même pas mis de nom là-dessus parce que ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que sans attention et sans fonction exécutive, il n'y a pas la possibilité d'optimiser les différentes sous-fonctions qu'il y a dans notre système cognitif. Et donc, l'attention, c'est vraiment le préalable à tout fonctionnement cognitif, surtout quand on est en situation de nouveauté. Alors, l'enfant est alerté et une des premières attentions dont on parle, un type d'attention, c'est l'attention focalisée, l'attention sélective, qui, elle, rencontre une notion toute simple, c'est la notion de tri. Imaginez que vous soyez vous rentrez un petit peu tard chez vous, le soir, vous mettez votre voiture dans le jardin, dans le garage, vous traversez le jardin, puis vous perdez vos clés, puis vous avez une lampe de poche. Et donc, avec votre lampe de poche, vous allez l'allumer et vous allez avoir un petit faisceau qui va éclairer une portion du jardin. Et de portion en portion, comme ça, vous allez peut-être trouver vos clés. Si vous aviez une lampe de poche qui éclairait tout le jardin, à moins que les clés brillent énormément, dans ce cas-là, elles pourraient être piquées par une pie, vous allez, par une fonction de tri, sélectionner une portion du jardin. Et en fait, l'attention focalisée, c'est exactement ça. C'est essayer de focaliser son esprit sur quelque chose dont on a déjà une petite idée, sinon c'est compliqué. Et donc, c'est trier parmi les informations. C'est exactement ça que vous demandez à un enfant à l'école quand vous lui demandez de se concentrer sur quelque chose en particulier. En fait, implicitement, vous lui demandez d'oublier tout le reste, les ouvriers qui travaillent dans la cour de récréation. Donc ça, ça pose déjà un problème, vous l'aviez un tout petit peu compris tout à l'heure. Pour des enfants qui ont ce qu'on appelait dans le temps une déficience intellectuelle, qui passent de classe en classe et qui n'ont pas le niveau souhaité, qui, à longueur de journée, sont comme le monsieur qui écoute France Culture avec une belle émission, mais dont ils ne comprennent rien. Ces enfants-là, par définition, ils ne peuvent pas accorder de l'attention à ce qu'il se dit à longueur de journée parce qu'ils sont dépassés. Alors, il y a cette notion de distractibilité, donc essayez d'enrayer ce qui pourrait vous empêcher de vous focaliser. Bien évidemment, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la motivation de l'enfant. Il y a des périodes dans la vie où les parents se séparent, où le grand-père décède, et ce n'est pas si facile que ça d'être à ce moment-là dans de bonnes situations pour être attentif. Alors, le problème de l'attention en classe, c'est qu'à un moment donné, ça rend compte la durée, ça rend compte la temporalité. Parce qu'il y a des exercices qui durent. Il ne s'agit pas de se focaliser sur quelque chose, il s'agit que ça dure. C'est ce qu'on appelle l'attention soutenue ou l'attention prolongée. L'attention soutenue et l'attention prolongée rencontrent, elles, deux choses. La première chose, c'est la notion de réservoir attentionnel. Parce qu'en fait, on a pu montrer que tous les êtres humains sont différents. Il y a des yeux bleus, il y a des yeux marrons, il y a des grands, il y a des petits. Mais même au niveau de l'attention, on n'a pas tous la même capacité attentionnelle. C'est-à-dire que la capacité attentionnelle, c'est un double sens. C'est être capable de porter attention. C'est une capacité cognitive, cérébrale. Et puis, c'est la quantité d'attention que l'on a. Donc, une quantité, on va s'amuser à comparer ça à un réservoir de l'automobile et puis à un trajet en voiture. Ce qui est important par rapport à votre réservoir et à votre trajet en voiture, ce n'est pas tant la capacité du réservoir que la consommation. Si vous avez un petit réservoir, mais que vous conduisez prudemment sur une route plane et que vous avez le temps, ben avec votre petite quantité d'essence, vous pouvez faire pas mal de kilomètres. À l'inverse, même si vous avez un réservoir plus grand, mais que vous conduisez comme un Fangio avec votre Ferrari, que vous consommez beaucoup, beaucoup d'essence en peu de temps, vous n'allez pas faire plus de kilomètres que le premier, malgré que vous ayez un réservoir plus grand. Si vous êtes distrait, en fait, au niveau du réservoir, ça serait comme s'il y avait une fuite au réservoir. S'il y a une petite fuite au réservoir, une toute petite fuite, vous pouvez faire des kilomètres. S'il y a une grosse fuite au réservoir, ben vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres. Donc, en fait, la capacité attentionnelle au sens de la quantité d'attention dont l'enfant dispose, c'est tout à fait comparable à une notion de consommation attentionnelle. On pourrait même rajouter un petit élément. Si au lieu de raisonner en termes de consommation d'essence et en termes de kilomètres parcourus, vous raisonnez en termes de temps de trajet, même si l'Homo sapiens de 2012, en général, il a tendance à prendre les autoroutes pour partir en vacances et avoir un temps de trajet le plus court possible. Mais si vous faites des pauses toutes les deux heures, parce que Bison Futé l'a dit, ou si vous avez envie de flemmarder, d'aller voir un musée, si vous faites des pauses avec la même quantité d'essence, avec le même réservoir, avec la même consommation, votre durée de trajet va être plus longue. Un enfant qui a des troubles attentionnels, s'il fait des pauses, la durée dans la journée où on va pouvoir solliciter son attention va être plus longue. Il y aura des petites pauses où il va recharger ses batteries.
ce qui est aussi un réservoir. Et cette histoire d'attention prolongée rend compte ce qu'on a dit tout à l'heure, cette histoire de mémoire de travail. Donc on va s'arrêter un instant sur la mémoire de travail. La mémoire de travail, on l'a dit, c'est la capacité de travailler sur des données en temps réel. C'est par exemple ce que font les gens qui font de la traduction simultanée. Ils écoutent une phrase, ils la traduisent, tout en écoutant la phrase, tout en continuant à traduire. C'est quand même assez compliqué. Il y a une autre façon d'illustrer la mémoire de travail, c'est les gens qui savent jongler. Si vous savez jongler avec 3 balles, ben, vous êtes moins à l'aise en jonglage que si vous savez jongler avec 5 balles. Mais finalement, que vous sachiez jongler avec 3 balles ou 5 balles, si vous jonglez comme ça, dans la durée, et puis que votre partenaire, en général une blonde à paillettes, vous envoie une balle supplémentaire, si vous êtes à votre maximum de capacité de jonglage, 5 balles par exemple, hop, et vous envoie la 6e, vous êtes obligé d'abandonner une balle pour faire rentrer la 6e qui va prendre la place de la 5e. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la mémoire de travail, un enfant qui, au fur et à mesure d'un exercice, sait travailler avec un certain nombre de balles en temps réel, il est obligé, surtout si l'exercice se prolonge dans le temps, en permanence de vider et de remplir cette fameuse mémoire de travail. Et plus elle aussi aura une capacité importante, plus il sera à l'aise pour durer, pour perdurer dans un exercice qui va solliciter son attention. Et enfin, il y a une troisième caractéristique de l'attention. On parle souvent donc d'attention focalisée, soutenue, et on parle de l'attention divisée ou de l'attention partagée. Alors elle rencontre les fonctions exécutives, les fonctions qui managent toutes les fonctions cognitives dans notre cerveau, qui vont être capables de dire, là, on a plus besoin de visuel, là, on a plus besoin de langage, là, on a plus besoin de spatial. Elle va un petit peu distribuer les rôles parce que faire attention à plusieurs choses en même temps, c'est pratiquement impossible dans l'espèce humaine. On ne peut faire attention à plusieurs choses en même temps que si on maîtrise bien ces plusieurs choses en même temps. On peut regarder la route, tourner le volant, changer de vitesse, parce qu'on sait analyser la route, on sait tourner le volant, on sait changer de vitesse. Quand on est en train d'apprendre à l'auto-école, c'est plus compliqué. Donc, cette attention, cette notion d'attention divisée, en fait, on ne divise notre attention que dans des choses qu'on a bien automatisées et que l'on possède bien. Donc ça rend compte une notion dont vous avez beaucoup entendu parler, si vous vous intéressez aux troubles spécifiques des apprentissages, la double tâche. C'est-à-dire que si vous demandez, par exemple, à un enfant qui est en grave panne d'écrire, justement, d'écrire l'énoncé problème, quand il écrit l'énoncé problème, ça prend toute son énergie, toute son attention, parce qu'il n'est pas doué pour ça. Donc il va dessiner maladroitement les lettres, il ne va pas bien écouter la maîtresse ou pas du tout écouter la maîtresse, il ne va pas faire référence à la leçon à laquelle le problème fait référence, il ne va pas commencer à réfléchir, il ne va pas commencer à résoudre le problème. Ce que font ses copains, en même temps qu'ils écrivent, ils commencent déjà à travailler. Donc juste cette distractibilité, bien sûr, il y a être prêt. Il y a les conditions psychologiques dont on a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas, évidemment que ça existe, mais il y a surtout ne pas se laisser distraire. Si vous êtes à Paris, place de la Concorde, à 17h, un vendredi soir, et qu'il y a des voitures partout, et que vous devez traverser sur votre passage piéton, si vous écoutez ce qui passe à la radio parce que c'est les soldes et qu'il y a des haut-parleurs partout, si vous vous laissez capter par la pharmacie avec sa croix verte qui clignote, ben, vous ne traverserez jamais. À un moment donné, vous décidez de regarder si le petit bonhomme est vert ou s'il est rouge. Vous vérifiez s'il y a des voitures qui ne grillent pas les feux rouges. Et puis, vous y allez. Donc, vous vous focalisez sur quelque chose. Vous ne vous laissez pas distraire par la grande roue qui est en train de tourner dans le parc des Tuileries. Donc, une bonne image de ça, c'est que finalement, être attentif, ce n'est pas tant ouvrir le bon tiroir que de savoir fermer tous les tiroirs qui ne sont pas intéressants. C'est ça, l'image. Donc, sur le plan pratique, l'attention, ça consiste à focaliser l'esprit, pas les yeux, pas les oreilles, sur une tâche, une consigne, une image, un texte, un énoncé. On est d'accord. À sélectionner les stimuli pertinents et pour cela, à inhiber les autres.
Ça, c'est pas important dans ce que j'ai à faire, je ne m'en occupe pas. Donc, à lutter contre tous les distracteurs qui viennent de l'environnement du sujet, les mamans le soir quand on fait les devoirs, le téléphone qui sonne, le facteur qui passe, c'est rare le soir, la mouche qui vole, voilà. Et du sujet lui-même. Et certains enfants, justement, dans ce, on va dire, allez, dans ce spectre des difficultés d'attention, il y a souvent des difficultés qu'on a dit exécutives, et c'est des enfants qui ont, ce qui est noté là, des diffluences, c'est-à-dire ils passent d'une idée à l'autre. Un mot leur amène une pensée. Ils n'arrêtent pas de zapper. C'est cette petite fille, un jour, à laquelle je demandais de me raconter le petit chaperon rouge, et qui m'a dit, le petit chaperon rouge, il est parti chez sa grand-mère porter une galette et puis un petit pot de beurre, et puis il a rencontré le loup, et puis comme il avait peur de perdre son chemin, il a mis des cailloux derrière lui pour être sûr de retrouver son chemin, et là il est arrivé en même temps que le loup à la maison de la grand-mère, et là il a vu le loup qui a dit, je vais m'enfler, je vais souffler, et la maison va s'effondrer. Mais heureusement, on a entendu au loin une musique, pam, 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 pam. Et là, il y a des chasseurs qui sont venus délivrer Paul, Pierre. Ben non, ça devait être le petit chaperon rouge. Il y a quatre histoires en 30 secondes. Bouh, ça zappe. Donc, le problème de l'attention, c'est qu'à un moment donné, les psychologues, les paramédicaux, quand on va être interpellé sur ce problème d'attention, on ne va pas pouvoir tester l'attention en soi. L'attention en soi, ça n'existe pas. On va toujours utiliser un support. On fait attention à des mots, à des bruits, à une musique, à des images, à des lettres. Et puis le problème, c'est que quand on teste l'attention, dans l'autre sens, on utilise forcément des supports qui vont intéresser quelque chose d'autre que l'attention. Donc s'il y a des psychologues dans la salle, un test d'attention, ça n'existe pas. C'est un test d'attention qui teste aussi forcément quelque chose d'autre. Et que si le quelque chose d'autre, il est un tantinet déficient, un tantinet pathologique, eh ben on ne va peut-être pas tester franchement de l'attention. Par exemple, ce test des nounours, il s'agit, avec le stylo, comme j'ai commencé là, de barrer, c'est un test de barrage. Le test de barrage, c'est le test d'attention. Ben non. D'abord, il faut que je reconnaisse les nounours, parce qu'un nounours, ce n'est pas un cuicui, ce n'est pas une chaussure, ce n'est pas une poupée, ça se ressemble. Donc il faut que, d'un point de vue de la reconnaissance visuelle, je sois capable de distinguer les nounours du reste. Sinon, je peux rayer les poupées à la place des nounours. Il faut que mes yeux sachent faire des petits sauts pour passer d'un endroit à l'autre. Il faut que mes capacités d'exploration visuelle soient plutôt relativement linéaires pour essayer de ne pas en oublier. Si je fais comme ci, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, forcément, comme mon exploration visuelle est anarchique, je vais forcément oublier des nounours. Et on va dire, je ne suis pas attentif. Puis il faut aussi que je puisse, à peu près, d'un point de vue graphomoteur, barrer mes petits nounours. Donc vous voyez que derrière cette idée de tester l'attention, forcément, on teste autre chose. Donc, l'expression clinique des déficits attentionnels et ou exécutifs, parce que même si je suis allé vite là-dessus, c'est quelque chose qui est très interpénétré, elle est forcément variable et fluctuante. C'est-à-dire que qu'un enfant ait un vrai défaut d'attention ou pas un vrai défaut d'attention, en fonction du support, en fonction du contexte, ça va être plus ou moins fort, plus ou moins gommé, plus ou moins étayé par le contexte, plus ou moins aggravé par le contexte. C'est plus facile de traverser un passage piéton un lundi matin à 10h à La Vosseau qu'à 17h à Paris, place de la Concorde. Donc, pour avoir une petite idée des déficits attentionnels, il faut une approche pluridisciplinaire sur une période prolongée afin d'établir des recoupements. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'avec toi, il est attentif? Est-ce qu'avec toi, voilà. Et puis de déterminer le degré d'inattention et le retentissement dans les différents lieux de vie de l'enfant. Qu'est-ce qu'il en est à l'école? Qu'est-ce qu'il en est à la maison? Qu'est-ce qu'il en est dans la salle de sport? Donc, pour les médecins, pour les gens qui voient les enfants pas souvent en consultation, pour un bilan à un moment donné, ben c'est compliqué parce qu'il y a cette situation de consultation qui est une situation tout à fait particulière. L'enfant, il sait que c'est important. Il a attendu 12 mois pour aller au centre référent du langage. Il a attendu 6 mois pour décrocher sa consultation dans un service spécialisé à Tours, à Paris, à Bordeaux, parce que c'est mieux qu'en province, n'est-ce pas ? Voilà. L'enfant, il peut être en situation de stress parce que à partir du moment où on fait passer des petites épreuves aux enfants, ben, il y a la possibilité que ça loupe, hein, que ça rate. Et donc, si on a eu la malchance de démarrer par 2-3 petites choses où il a complètement loupé, eh ben, il est dans la peur, d'être en échec de nouveau et il peut stresser considérablement. Il peut y avoir eu des événements intercurrents. Effectivement, il a pu y avoir le décès du grand-père 2 jours ou 3 jours avant cette fameuse consultation qu'on attend depuis 12 mois, donc on ne va pas faire changer la date. Hein. Faut y aller alors que l'enfant, il n'est pas... Donc, il y a là toujours, hein, la nécessité de passer par d'autres personnes et de s'astreindre à une observation prolongée de plusieurs personnes qui mettent en commun leurs observations. Quoique parfois, en consultation, même si quelquefois on se fait avoir, les signes de troubles de l'attention et des fonctions exécutives, ils sont tellement évidents qu'on a tout de suite envie d'aller vérifier cela. Donc, il devrait y avoir ce qu'on appelle une cohérence qualitative et transversale des symptômes, c'est-à-dire on devrait retrouver les troubles de l'attention dans plusieurs secteurs, voire tous. On devrait les rencontrer avec plusieurs personnes, voire toutes. Mais on peut plus ou moins accrocher avec les gens quand on est un petit enfant. Surtout, ça ne va pas évoluer avec le temps. Et là, on retombe sur un critère fondamental dans les problèmes de 10, quels qu'elles soient. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'à un moment donné, l'enfant, il n'est pas bon. Par exemple, un enfant de 2 ans et demi, il peut être effectivement en retard de langage. Mais à 2 ans et demi, on ne parle pas beaucoup. À 2 ans, on ne parle pas beaucoup. Mais à 3 ans, on parle énormément. Et un enfant qui a un mauvais niveau de langage oral à 2 ans et qui garde à peu près le même niveau de langage 1 an après, à 3 ans, alors que les autres, ils ont progressé d'une façon tout à fait exponentielle, ça doit attirer l'attention. Donc, non, les enfants de petite section, ils ont moins d'attention que les enfants de CE2, que les enfants de CM2 et que les enfants de 3e, c'est évident. Mais moi, ça fait, imaginons, on est vraiment, vraiment dans la campagne reculée, j'ai un court trip, j'ai de la petite section à la grande section, et il est toujours aussi inattentif. Les autres, ils sont capables de me donner de l'attention beaucoup plus de temps dans la journée. Lui, il est resté au stade où je l'ai trouvé au début. Il n'a pas beaucoup progressé. Ça, c'est un indice important. Et puis surtout, c'est que c'est un trouble durable qui a toujours existé et qui est grave. Ce n'est pas un enfant qui est un tantinet inattentif. Il est vraiment... C'est très difficile, lui, justement, de capter son attention. Vous savez que l'attention, les fonctions exécutives, on va le voir tout de suite après, c'est ce qu'on le retrouve dans le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelait le TADA, et maintenant, il faut dire TDAH, sinon on est has-been. Mais il y a des mamans, quand elles ont eu plusieurs enfants, elles en ont eu 4. Le 3e, quand il est hyperactif, elles disent en consultation, mais les autres, ils ne bougeaient pas dans mon ventre comme lui. Parce que lui, il bouge tout le temps, mais déjà dans mon ventre, il bougeait. La nuit, il réveillait son père dans son ventre. Donc, ça a toujours existé. C'est authentifié par des tests, parce que maintenant, on a des tests qui mesurent l'attention dans des conditions qui ne sont pas écologiques, mais ils existent. Mais ça doit être retrouvé dans la vraie vie. C'est-à-dire que ça arrive parfois qu'avec les tests, on trouve des trucs, puis on dit, bah, il a ça, mais dans la vraie vie, il n'est pas comme ça. Donc, il faut quand même qu'il y ait aussi une cohérence entre ce qui se passe réellement pour l'enfant dans la vraie vie et ce qu'on trouve dans les tests. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence. Et puis, vous savez qu'il y a des questionnaires qui interrogent l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité. Ces questionnaires, ils sont intéressants. Aux États-Unis, il paraît qu'ils suffisent pour poser le diagnostic. En France, non. Ce sont des indicateurs. C'est-à-dire que si les parents, les enseignants, la babysitter, le grand-père, s'il y a les 18 items qui sont cochés, il y a de fortes chances qu'il faille s'occuper de ce problème d'attention. Si personne ne coche ces items d'attention, on peut être à peu près tranquille. On va pouvoir aller chercher autre chose qu'un problème d'attention dans la problématique scolaire de cet enfant-là. Alors, pourquoi c'est important cette histoire de tenir compte des troubles de l'attention, de l'éprouver, de les mesurer? de les diagnostiquer, parce qu'en général, ils se voient, c'est que si on n'en tient pas compte, comme c'est un préalable, comme c'est une déficience qui va avoir des conséquences globales, des conséquences transversales, ça va amener progressivement à une dégradation des apprentissages, parce que plus le niveau est élevé, plus la quantité d'informations à traiter est importante, plus l'enfant va se retrouver en difficulté à cause de ses difficultés d'attention, en difficulté scolaire à cause de ses difficultés d'attention. Alors les signes, parce que ça c'est important, qu'est-ce qu'il faut repérer ? D'abord, l'incapacité à écouter une consigne jusqu'au bout. Voilà. Le parasitage par n'importe quel distracteur, c'est ce qu'on a dit. Les diffluences, hein, le petit chaperon rouge, le petit poussé, les trois petits cochons, Pierre et le loup. Les persévérations de tous ordres, raisonnemental, gestuel, verbal. L'enfant, par exemple, qui commence à écrire le L et qui fait une boucle, et qui reste sur sa boucle et qui fait un trou dans sa page. Ça interpelle, ça. L'enfant qui a une frise à faire, avec différentes... Et puis qui continue à faire toujours la même chose. C'est ça, une persévération. Des difficultés à changer de tâche, à s'adapter à une tâche nouvelle. Une gesticulation, le besoin irrépressible de bouger, de se lever, de parler, de tripoter ce qu'il a dans sa trousse. Une aimantation, je me souviens, quand j'avais encore une consultation au CHU, il y avait un trou pour pouvoir passer les fils de l'ordinateur qu'on n'a jamais eu, et il y avait un cache dans le trou. Et bien, les enfants qui avaient ce type de problème, quand ils arrivaient en consultation, il fallait qu'ils attrapent le cache. Donc j'enlevais le cache, et après on était tranquille. Mais ils étaient aimantés par ce qu'il y avait à leur disposition, à leur proximité plutôt. Une impulsivité, la réponse avant la fin de la consigne. C'est normal, ça va avec l'incapacité à écouter une consigne jusqu'au bout. Ça, vous le remarquez, les parents, quand vous faites les devoirs, vous n'avez pas donné la moitié de la consigne. De toute façon, il a déjà démarré, lui. Donc en général, il peut démarrer faux, parce que comme il n'a pas écouté la fin, il y a peut-être des éléments importants à la fin. Et puis, une réponse de type n'importe quoi. Parce que quand on va trop vite, on donne une réponse pour donner une réponse. Et il y a quelques années, il y avait une psychologue qui m'avait appelé et qui m'avait dit, votre gamin, là, je ne sais plus ce que c'était l'épreuve, mais si je cote l'épreuve, avec la réponse qu'il m'a donnée, il a 1. 1, c'est la plus mauvaise note. Chez les psychologues, ça va de 1 à 19. Mais, comme je voyais quand même qu'il dépotait, c'est drôle, je lui disais, mais t'es sûr ? Réfléchis. Enfin. Et quand il me donnait une deuxième réponse, elle était systématiquement juste. Alors, je lui mets 1 ou je lui mets 19 ? Alors, on lui met quoi, les psychologues ? On met 1 ou on met 19 ? Personne n'a d'avis tranché. C'est vrai qu'on est en période d'élection. Et bon, on met 1, parce qu'avec le protocole du test, il a pas, s'il a droit qu'à une réponse, on est obligé de coter 1. Par contre, on met, si j'interromps la réponse impulsive de type n'importe quoi, la deuxième réponse était toujours juste. Parce qu'autrement, moi, si je me base sur le 1, je suis un petit peu pas bon du tout. Hein, voilà. Mais on ne peut pas mettre 19, parce qu'un test, c'est un test. Voilà. Alors, tous ces phénomènes s'amendent, diminuent, disparaissent si on canalise l'attention de l'enfant, ce qui le soulage. Un enfant qui a des persévérations, même s'il n'en a pas conscience, il a une certaine conscience que ça le perturbe, que ça le gêne, il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Et si l'adulte pose ses mains sur ses épaules, l'ancre un petit peu dans la réalité, après il y a besoin d'en faire moins, il sait que ça va l'aider et ça va le soulager. Pas du tout un enfant qui a des stéréotypies dans le cadre d'un trouble du spectre autistique. Là, on peut faire une différence. Alors, le fameux TADA, T-D-A-H, le triptyque, les trois signes que l'on recherche, que l'on attend, qui définissent le TADA, c'est l'attention, la gesticulation, on va dire l'hyperactivité, et l'impulsivité. Et vous voyez que le TADA, si on le fait rentrer dans le trouble des fonctions exécutives, on a tout un tas d'autres petits signes qui sont intéressants, qui permettent surtout, en France, de sortir de l'idée qu'il y a des enfants TADA et des enfants pas TADA. Comme s'il y avait, en médecine, par exemple, que des diabètes très très graves ou pas de diabète du tout. Que des arthroses de hanche absolument graves avec des prothèses à mettre et puis des gens qui n'ont pas d'arthrose. Mais
avec le TADA, avec la polémique qu'il y a autour du traitement en particulier, soit on est TADA, soit on n'est pas TADA. Alors qu'il y a plein d'enfants, ils sont moyennement TADA. Ils sont à 70% TADA. Ils sont TADA moyen à fort. Ils sont TADA plutôt modéré. Et ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'occuper d'eux. Mais ça, c'est la France. On est bien ou on n'est pas bien. On est blanc ou on est noir. Hop. Donc le TADA, attention, impulsivité, hyperactivité, pas toujours. Il y a des enfants qui ont simplement un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. C'est éminemment variable et ce n'est pas du tout ou rien. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il a cet enfant qui est empêché de rentrer dans les apprentissages, qui n'est pas disponible en raison de troubles de l'attention, qui ne rentre pas dans le statut d'élève? Il a toujours un métro d'avance. Il est toujours, toujours, toujours à avancer. Quand il lit, par exemple, il est incapable de revenir en arrière pour se corriger alors qu'il lit des erreurs, enfin, il fait des erreurs et que ce qu'il lit n'a pas de sens, par exemple. Mais il est toujours à avoir un métro d'avance. Il n'a aucune possibilité de contrôle. C'est des enfants qui ne peuvent pas contrôler leurs troubles. Il est inhérent à eux. Ils n'ont pas en eux le moyen de le contrôler. Ils passent d'un truc à l'autre. Ils ne hiérarchisent pas. Ils ne pondèrent pas les informations. Tout a la même importance. Ce que dit la maîtresse et le rossignol qui fait cui-cui dans l'arbre, c'est pareil. Ce que l'on me demande de lire sur mon cahier et le bruit de la pelleteuse qui fait des travaux dans la rue adjacente, c'est pareil. Je ne peux pas traverser parce que je confonds le vert du petit bonhomme et la croix verte de la pharmacie qui clignote. Ça a pour moi la même importance. Vous vous rendez compte? Donc ces enfants, ils sont, dans, je l'ai dit tout à l'heure, dans un état de zapping permanent. Et souvent, quand j'en parle avec les parents en consultation, je dis, bon, on va résumer la situation. En fait, votre fils, votre fille, ils zappent tout le temps. Ah ben c'est ça. Et ben oui, docteur. En fait, ils zappent tout le temps. Ils passent d'une chaîne à l'autre. Il ne peut pas se poser sur quelque chose. Sauf si l'environnement bouge pour lui. Alors ça, c'était une grande polémique, parce qu'à un moment donné, on a dit que les jeux vidéo et la télé créaient des enfants hyperactifs. C'est vrai que les jeux vidéo, je trouve que c'est un peu speedo quand même, moi, et que les émissions du matin pour les enfants, heureusement que mes enfants sont grands, parce que je trouve que c'est très, très speedo. Mais quand vous êtes un hyperactif et que le matériel que vous avez dans les mains, votre jeu vidéo, ou que le film qui passe à la télé, il est complètement hyperactif à votre place, vous êtes alimenté dans votre hyperactivité et vous êtes étonnamment calme. Mais ce n'est pas la télé qui crée votre hyperactivité, c'est la télé qui la nourrit. C'est un Tamagotchi. Voilà. Donc l'évolution de ça, eh bien, le problème des lobes frontaux, de ces fonctions frontales, c'est que c'est des fonctions chez l'humain qui évoluent très lentement, par paliers d'ailleurs, l'âge de raison, l'âge du vote. Mais on en a dès la naissance, des fonctions frontales, de l'attention, des fonctions exécutives. Donc on peut évaluer les choses chez les enfants tout petits. Mais comme ces lobes frontaux évoluent lentement, chez un certain nombre d'enfants, il y a une certaine tendance à l'amélioration, voire, pour certains jeunes, une vraie normalisation de ces troubles cognitifs qui sont tellement comportementaux. Mais, évidemment, que ça reste dépendant du contexte. On traverse mieux sur le passage piéton à La Vosseau que place de la Concorde. Donc, quand tout le temps, vous êtes perturbé, et perturbant quand même, hein, Olivier Revol qui dit, par exemple, en conférence, Olivier Revol de Lyon, qui dit les enfants hyperactifs, c'est les enfants que les parents sont contents de mettre à l'école à 8h30 et pour lesquels les enseignants seraient contents qu'ils les récupèrent à 9h05. Donc, quand vous n'êtes pas disponible, quand vous êtes obligé de faire attention alors que c'est votre problème, quand vous faites des efforts considérables pour aller chercher une attention qui vous échappe, ça, c'est épuisant. Ça a un coût prohibitif. C'est-à-dire qu'en classe, l'enfant inattentif, qui a vraiment un déficit d'attention, il s'épuise simplement à vouloir faire attention, puisqu'en plus, comme on a dit au tout départ, lui, on lui demande. Donc, il faut que ça s'arrête. Stop. Il faut que ça s'arrête. Parce que la vie de ces enfants, elle est effroyablement douloureuse et compliquée, et celle de leurs proches aussi. Dans la vie quotidienne, en cas d'agitation, d'hyperactivité, surtout, la vie de l'enfant, difficile à cadrer, insupportable, qui se met en danger, ces enfants, les parents disent « mais je ne le laisse pas sortir de chez moi parce que j'ai peur, il a 11 ans, la boulangerie elle est à 200 mètres, il n'est jamais allé chercher le pain tout seul, il ne prend pas son vélo parce que ce n'est pas possible, il se met en danger tout le temps ». Donc c'est difficile, on a de multiples rappels à l'ordre, on a des avertissements, on a des interdictions, on a des brimades, on a des punitions et on a de la maltraitance. Et les enfants hyperactifs, ils sont significativement plus maltraités que les autres. C'est comme ça. Donc on est dévalorisé en permanence, on a une mauvaise estime de soi, on est victime de ces symptômes, on est en souffrance, d'autant plus que dans ces fonctions frontales, il y a souvent un aspect social avec une désinhibition, des gros mots, des gestes mal intentionnés, une mauvaise distance à l'autre, des gros bisous qui sont toujours très adorables quand on a 3-4 ans, qui sont beaucoup moins tolérés en société quand on en a 15. Donc l'enfant, il est victime. C'est un enfant victime. Il est victime de ces troubles qu'il subit sans pouvoir les contrôler. Il a donc besoin d'aide et d'étayage constant. La différence entre un trouble transversal comme l'attention, c'est que les aides ne vont pouvoir venir que de l'extérieur. Si vous ne comprenez pas le langage oral, mais que vous comprenez le langage des signes, et si les enseignants sont au courant et connaissent le langage des signes, vous êtes sauvés. Si vous ne pouvez pas écrire à la main, mais que vous avez la possibilité d'utiliser un ordinateur, et que les enseignants le savent, vous avez en vous quelque chose qui fonctionne bien, qui va remplacer quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais à ce niveau-là de troubles préalables, de troubles transversaux, quand vous, comme vous n'avez pas en vous la possibilité de canaliser cette attention, il n'y a que la situation favorisante dans lesquelles les adultes peuvent vous placer, qui peuvent vous sauver la mise. Vous, vous êtes victime. Donc, c'est très important pour ces enfants-là d'avoir précocement une auxiliaire de vie scolaire. Elle sert de cortex frontal à l'enfant qui en a un, mais qui ne fonctionne pas bien. Donc, les aides. Alors, il y aura une seule diapo sur le traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux, il permet à l'enfant de se poser. Il n'est plus dans un zapping permanent. Il permet aux autres mesures d'être mises en place et il permet leur efficience. Par exemple, des thérapies cognitivo-comportementales. Il permet surtout à l'enfant, pour une fois dans sa vie, d'écouter les injonctions éducatives normal, banal, habituel, logique, de n'importe quel adulte auprès d'un enfant jusqu'au bout. Parce que ces enfants-là, quand les parents leur donnent des injonctions éducatives, ils n'écoutent pas plus jusqu'au bout qu'un énoncé problème. Donc, ça ne leur parle pas du tout de leur donner des injonctions éducatives. Ils écoutent que le tout début et après, ils sont partis ailleurs. Donc ça sauve des enfants, ça sauve des familles, ça sauve des groupes classes, ça sauve des enseignants et ça sauve aussi des AVS. Mais ce n'est pas n'importe quoi, c'est encadré comme prescription. Ça doit être prescrit à bon escient, on doit vérifier s'il y a des effets secondaires ou pas. Mais quand on est dans une bonne indication chez un enfant qui tolère bien le médicament, du jour au lendemain, il y a des situations qui sont le jour et la nuit. Ce qui, en médecine, n'est pas si fréquent que cela. Ça serait donc dommage de s'en priver. Mais le méthylphénidate, la ritaline, ce n'est pas un bon ou un mauvais traitement en soi. L'insuline, ce n'est pas un bon ou un mauvais traitement en soi. C'est très bien pour les diabétiques. L'opération de l'appendicite, ce n'est pas un bon ou un mauvais traitement en soi. C'est très bien quand on a une appendicite aiguë avec une péritonite. Quand on est opposé aux antibiotiques, il y a des parents qui sont opposés aux antibiotiques, je peux vous assurer que si vous arrivez aux urgences avec votre adolescente de 12 ans qui a une méningite aiguë avec un purpura fulminant, c'est-à-dire qu'elle a, on va dire, des escarres partout, et que l'interne de garde il vous dit « si je lui mets de la pénicilline demain ou dans 48 heures, elle est guérie, sinon dans quelques heures, elle est morte », vous changez très vite d'avis sur les antibiotiques. C'est marrant. Voilà. Mais bon, en France, c'est bien, c'est soit bouillie, soit non, soit blanc, soit noir. Alors, les propositions d'aide. L'enfant victime de son trouble doit être aidé. On doit surtout expliciter le trouble à cet enfant, à ses parents, aux enseignants, aux copains aussi. Parce que ce n'est pas du tout évident quand on est né comme ça et quand on vit comme ça, de se rendre compte de ce qui ne va pas. Moi qui commençais et qui suis toujours dans le handicap moteur, par exemple, ben, un enfant qui a des fuites urinaires, lui parler de continence, ça ne lui parle pas du tout. Parler à un enfant qui est toujours mouillé d'être dans une situation de sec, il ne comprend pas. Et ben là, c'est pareil. Donc, il faut passer du temps à expliciter, à mettre l'enfant en situation pour qu'il prenne conscience de ses troubles. Sinon, il ne sera jamais en alliance thérapeutique avec les gens. Donc, on doit agir sur l'environnement et faciliter cette fameuse inhibition des stimuli non pertinents. Et il faut mettre en place des adaptations rééducatives et pédagogiques. Et on peut, si c'est nécessaire, utiliser les médicaments accompagnés de prise en charge psychothérapeutique ou de thérapie psychocomportementale. En France, on insiste sur les trois versions de cette aide, les trois piliers de l'aide. Donc, les principes généraux, la prise de conscience, et puis un paquet, canaliser l'attention, contenir l'impulsivité, favoriser l'inhibition, stopper les diffluences. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se laisser piéger. C'est-à-dire qu'en classe, la petite Sarah, si une fois par an, elle dévie de ce qu'on dit en classe, de ce qui est le sujet du temps classe, et qu'elle amène une information tout à fait pertinente, on peut s'arrêter et dire « Ah ben, c'est vachement bien, voilà. » Bon. Mais un enfant qui, en permanence, passe du coq à l'âne, il peut aussi passer du coq à l'âne dans des choses intéressantes. Et donc, on pourrait se laisser piéger et dire « Ah ben oui, Gudule, c'est pas mal ce que tu dis, c'est intéressant. » Mais non, on est sur le petit chaperon rouge, on reste sur le petit chaperon rouge. Donc, celui-là qui est très coutumier du fait, on l'arrête immédiatement. Non. Là, on est dans 1515 Marignan et on n'est pas dans 1066, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Alors, et on doit valoriser les réussites parce que vous avez bien compris que ces enfants, ça fait des années qu'ils ont des injonctions de faire attention, des brimades, comme on a dit. Ils n'ont pas une vie facile. Donc, quand il y a des choses qu'ils réussissent, il faut les mettre en avant. Alors, et puis donc, il faut faire attention à la fatigue, parce qu'on l'a dit, ça coûte énormément, donc il faut segmenter les tâches, faire attention aussi à ne pas les mettre en double tâche. Alors, ça, vous le retrouvez, et sur mon site, c'est exactement la même chose qui est écrite, et aussi dans mon bouquin, mais lui, il est payant, donc vaut mieux que vous alliez sur mon site. Voilà. Donc, la métacognition, faire prendre conscience à l'enfant de son propre fonctionnement cognitif, exercer enfin un contrôle conscient et volontariste sur son fonctionnement. Alors, ça peut être la connaissance sur lui-même. Je suis plus efficace le matin, je suis plus attentif si je regarde, je réussis plus facilement si je verbalise ou si les informations sont dans un tableau. Ça, c'est très canadien, c'est très Amérique du Nord, mais ça marche. Ou alors, pour retenir une information, il faut se la répéter. Pour répondre à cette question, je dois regarder ma fiche de lecture. Il faut qu'il l'apprenne par cœur des procédures qui vont lui permettre de ne pas louper des trains. Voilà. Donc, le cadre est très important. Il faut des séances et des prises en charge ritualisées. Au départ, en tout cas, il faut toujours démarrer de la même façon, avec une petite formule d'introduction, toujours le même matériel, toujours, toujours la même chose, pour pas que ça parte dans tous les sens. Dans une pièce dépouillée, au calme, sans être dérangée, donc ça veut dire, en situation de test, il n'y a pas la collègue qui vient vous dire « Tu peux pas me passer Non, on met une pancarte sur la porte, ou nous, à Angoulême, quand on a un enfant et qu'on voit dans le dossier préalable qu'on risque d'être dans cette situation-là, on a une annexe avec des pièces vides, on va dans les pièces vides et on débranche le téléphone. Peu de matériel sur la place, sur la table, juste ce qu'il faut. Éventuellement, même, vous verrez, lui donner les objets dont il a besoin, les outils dont il a besoin, un par un. Un enfant placé loin de la fenêtre ou de la porte d'entrée, évidemment, si les vides vont jusqu'en bas, c'est foutu. Des séances courtes en fonction des possibilités puis des progrès de l'enfant. Du matériel simple, concret, pour faciliter l'attention dirigée de l'enfant. C'est tout bête, hein ? On doit inhiber l'impulsivité si elle existe. On débute la tâche après la lecture de la consigne. J'écris, tu écris quand je te donne le crayon. Le reposer après chaque séquence. Laisser les mains sur la table ou sous la table, comme on veut. Au début. Au début, on peut aider effectivement l'enfant par un maintien contenant. Poser effectivement les mains sur les épaules et appuyer pour l'ancrer, ça l'aide. Arrêter les persévérations, les diffluences, de façon ferme mais bienveillante. Et ça, c'est apprécié par l'enfant. Il est victime de ces associations d'idées qu'il ne contrôle pas. Donc pour cela, on peut utiliser un code, parce qu'effectivement, dire à longueur de journée, de longueur de semaine et de longueur d'année, Aurélie, fais attention, c'est un peu stigmatisant par rapport aux copains. Donc, on peut se mettre d'accord et ça marche très très bien sur un petit code. C'est-à-dire qu'on attire l'attention d'Aurélie et on fait comme ça. Ça marche très bien, ça. Deux petits doigts sur l'épaule. D'ailleurs, au bout de quelques mois, il n'y a plus besoin des deux petits doigts. Aurélie, comme tous les autres, elle croise le regard de la maîtresse. Elle a compris. Je suis en ligne. Je suis aligné. Donc, voilà, on y est. Éviter les doubles consignes et les tâches complexes avec une programmation ou une succession de tâches, ainsi que les réponses en choix multiples. Ça paraît simple pour certains enfants. Imaginez que vous êtes et inattentif et avec un trouble des fonctions exécutives et vous avez une dysgraphie. On va avoir tendance à dire, au lieu de le faire écrire, il va cocher. C'est très compliqué pour ces enfants-là de faire un choix. Ils vont toujours donner la première réponse, par exemple. Donc, c'est quelquefois pas la bonne solution. Donner des indices lors du rappel pour initier les réponses et les restitutions. Ça, c'est difficile à faire passer comme idée, mais c'est souvent des enfants qui n'ont pas du tout de mal à encoder les informations, la première étape dans la mémorisation. Ils ont du mal à retrouver les informations, et souvent, il suffit de débuter le mot, de donner un petit indice sémantique, et hop, ils le retrouvent. Ils l'ont en mémoire, mais ils ne trouvent pas le chemin pour y aller. Décomposer systématiquement en étapes, expliciter la trame logique ou raisonnementale. J'ai dit qu'on parle d'un enfant inattentif dans le cadre des 10, et que vous savez que la définition du trouble spécifique, c'est que l'intelligence générale, les capacités de conceptualisation, de catégorisation sont préservées. Ce sont par définition des enfants intelligents, quand on parle de troubles de l'attention dans le cadre des troubles spécifiques. Donc il faut s'en servir. Si besoin, donner quelques repères, des couleurs, du surlignage, noter les étapes, les stratégies sur un tableau, un graphique avec des couleurs, des repères, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que si on a trop, c'est comme tous les trucs qu'il y a d'accrochés sur les murs des classes, il y en a trop après, ça attire l'attention. Il ne faut pas que les aides visuelles, qui sont très efficaces, soient trop surchargées, parce que ça va devenir des distracteurs. C'est le serpent qui se mord la queue. Réaliser avec l'enfant, avec lui, des aides mémoire simplifiées, céder des catégorisations, des classements, des suites logiques, puisqu'ils ont ces capacités-là. Soutenir les tâches verbales par du matériel visuel simple et dépouillé, pas trop. Donc, surtout, valoriser les réussites liées aux aides. Et de bien dire qu'elles sont liées aux aides, et de bien valoriser aussi les aides. Notez explicitement les cahiers. C'est bien d'avoir un cahier de liaison avec la famille ou avec les paramédicaux, l'orthophoniste qui l'a en cabinet, parce que c'est bien de dire ce qui a fonctionné et de valoriser ce qui fonctionne. Et puis, laisser l'enfant se défouler ailleurs qu'en classe. Le pire qui puisse arriver à un enfant hyperactif, c'est de finir son travail à la récréation, parce que c'est quand même des cocottes minutes, et que la cocotte minute, c'est bien qu'elle aille se vider à la récréation, quand même, parce que ça ne résout pas tout. Les traitements et les prises en charge. Mais il y a aussi des contraintes de règles de vie. Ce n'est pas parce qu'on est hyperactif qu'on a le droit de tout faire. Les règles de la classe, elles s'appliquent à tout le monde. Pour toi, ça va être plus difficile, mais tu dois obéir aux règles de la classe. Donc la récréation. Conclusion. Alors, il existe des rééducations des fonctions exécutives, de l'attention. Alors, faut surtout, je n'ai pas pensé à amener les deux petits livrets qui vont apparaître tout à l'heure. C'est aux éditions de La Chenelière. Ça vient encore une fois des Canadiens. Mais il y a vraiment des techniques, plus que des techniques, c'est un mauvais terme. Il y a vraiment des méthodes que l'on peut mettre en place, des méthodologies qu'on peut mettre en place sur un temps prolongé qui vont considérablement améliorer ces enfants-là, mais qui nécessitent un investissement important de tout le monde, et ce n'est pas évident pour toutes les maîtresses, tous les maîtres, de le faire. Quand on participe à ce travail collectif, ça marche mieux. Mais même si on ne travaille pas avec une équipe et qu'on ne s'engage pas dans ce processus de rééducation qui fonctionne, il existe des moyens simples d'inhiber les distracteurs, la diffluence, les persévérations, l'impulsivité, et ça va déjà soulager considérablement l'enfant qui est victime de ces symptômes-là. Donc, de favoriser la canalisation de l'attention par des choses toutes simples. Et cette prise en charge, elle est gratifiante, avec des progrès lents, mais vraiment sensibles, si tout le monde s'y met. Alors, par exemple, ça c'est un des outils du livre qui va être la diapo d'après de Pierre-Paul Gagné. Lorsque je suis attentif, c'est des petits pictogrammes qui interpellent les enfants. Je m'arrête, je regarde, je me questionne, je décide. Ça, c'est un petit truc qu'on peut avoir à sa disposition. Donc, le livre dont je vous parle, aux éditions de La Chenelière, Être attentif, une question de gestion, avec tout un tas d'outils pour avancer, et un CD-ROM, par exemple, qui contient les pictogrammes que vous avez vus, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez imprimer. C'est très bien fait. Dans la même collection, par exemple, il y a Apprendre une question de stratégie, qui est aussi un petit peu plus ancien, mais extrêmement bien fait. Alors, pour un peu finir, est-ce qu'il y a des vrais problèmes d'attention ? Ou est-ce qu'il y a des troubles de l'attention secondaires induits ? Moi, je dirais qu'il existe encore beaucoup sur l'hexagone d'enfants qui ont des vrais problèmes d'attention et pour lesquels le diagnostic n'est pas posé, et qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on dit inattentifs et qui ont en fait des troubles de l'attention secondaires induits, ne serait-ce que ces enfants qui n'ont plus du tout le niveau, qui sont dans des classes, et puis qui entendent des choses à longueur de journée auxquelles ils ne comprennent rien et qui peuvent ne faire qu'une chose, c'est faire le clown pour intéresser les copains. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Imaginons que nous ayons un trouble structurel de l'attention, un trouble développemental, ça fait partie des 10, ça fait partie des troubles cognitifs, on a un déficit avéré de l'attention, on est né comme ça. Donc on doit l'avoir partout, avec tout le monde, tout le temps. Le problème, c'est qu'il y a la motivation et le contexte, et que les enfants restent des enfants, et que, par exemple, moi, me lever le matin à 4h du matin, j'aime pas, mais pour partir en vacances, j'aime bien. Voilà, ça s'appelle le contexte. Et puis, il y a les troubles induits, très souvent, indépendamment de la déficience intellectuelle, si on est en double tâche. Et je vous assure qu'un enfant qui a du mal à poser ses opérations à cause d'un problème spatial, qu'un enfant qui a une écriture très compliquée, très dysgraphique, avec une très grosse dysorthographie en raison d'une dyslexie phonologique grave, quand on lui demande de faire de l'écrit, très rapidement, il comprend qu'il ne pourra pas y arriver, il comprend que c'est trop difficile pour lui, et l'attention, elle n'est plus là. Mais, comme je vous disais, il y a aussi que pour certains enfants, il n'y a pas que la double tâche, il y a que c'est trop difficile, et la première cause de difficulté scolaire, ça reste une efficience intellectuelle même normal, faible, c'est pas simple de faire la scolarité dans l'école élitiste d'aujourd'hui. Donc vous voyez que c'est pas si simple de trier les choses. Donc le trouble de l'attention, ce n'est qu'un symptôme. Bien sûr qu'il fait partie de la triade du TADA, qu'il y a des enfants hyperactifs qui ont un trouble de l'attention et qu'il y a des enfants qui ont simplement un trouble déficitaire de l'attention sans hyperactivité. Ça veut dire qu'ils embêtent personne et que souvent, eh ben, on n'y fait pas très attention parce que c'est des enfants gentils qui ne perturbent pas le déroulement de la classe. Mais on trouve très souvent ça dans les suites de traumatismes crâniens. Ce n'est pas très fréquent les traumatismes crâniens, mais au fur et à mesure des années et des mobilettes, des petites motos, il y en a à l'adolescence. On trouve ça dans les troubles des conduites, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles oppositionnels avec provocation, en situation d'enfant anxieux, de dépression, de TOC, et avec des troubles cognitifs globaux comme la déficience intellectuelle et les troubles du spectre autistique. Donc, il faut faire la part des choses. Le trouble de l'attention, ce n'est qu'un symptôme. En cas de troubles neuropsychologiques associés, c'est un enfant qui, par exemple, a une dyspraxie visuo-spatiale avec des difficultés en calcul, des difficultés à l'écrit. Si on ne prend pas en charge le déficit attentionnel en premier, la rééducation habituelle qui fonctionne en cas de dyspraxie visuo-spatiale ne va pas fonctionner. C'est un préalable, donc c'est une priorité. Il faut peu ou prou juguler le trouble de l'attention, sinon ce qu'on va faire pour l'autre 10 qui est associé, ça ne va pas marcher. L'attention en classe. Conclusion, c'est pas si simple, c'était le titre de l'exposé ce soir. Ça nécessite finalement une prise de décision, ça nécessite pour pouvoir répondre à la tâche demandée, ça engage l'élève à allouer l'essentiel de ses ressources cognitives pour se faire, pour répondre à la tâche demandée. Il le juge nécessaire et possible dans le contexte du moment, en fonction de ses connaissances antérieures et en fonction de ce qu'il se représente, de la durée et des difficultés prévisibles qu'il va rencontrer. Donc, ce n'est pas si facile que ça à faire. Ça nécessite donc d'excellentes conditions scolaires d'être attentif. Moi, il me reste à vous remercier pour votre attention. Voilà.